What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Good.
Boy, I'm good.
The meatloaf! It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz, baby!
This is... say her.
Spew into this.
Yeah, baby, yeah!
I'm the dude. What are you looking at, butthead?
It went down on the channel phone.
I get old, they stay the same age.
Welcome to Jurassic Park.
I am the father.
Give this people a hand.
Robinson, you're trying to seduce me.
Bonjour, vous êtes sur Radio Divois 107.5 FM. Il est 18h.
Bonjour.
Et c'est lui.
Eh oui, c'est lui. Il est de retour. Le Bounty est de retour. Voilà, ça sent la rentrée.
Non, la révolte.
La révolte de la rentrée.
Non, du Bounty.
Oui, merci, j'avais compris. Eh bien, donc, chers auditeurs et chères auditrices de RDIWA ATC, l'émission de cinéma qui vous plaît, eh bien, ça y est, c'est reparti. One, two, one, two, three. Alors aujourd'hui, on va parler. On va beaucoup parler cette fois-ci. Hein. Il y aura moins de musique, il y aura plus de paroles.
Moi, je préfère la musique.
Oui, ça ne m'étonne pas.
C'est horrible, je te vois. Alors aujourd'hui, Monsieur Gouin, nous allons parler de Martin.
Oui, de Jacques Martin.
I have a dream. De Martin Marcantonio Luciano.
Scorsese.
Merci.
Ah ouais.
Né le 17 novembre 1942. Il a donc 70 ans.
70 ans ?
Oui.
Ah ben non, Dieu.
Il est né à Grosse Pomme.
Cette ville dont on ne parle jamais dans cette émission...
New York.
Voilà.
Donc c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain.
Oui, c'est mieux quand on est né à New York, hein, je t'avoue que c'est pas mal.
Je comprends plus toutes tes blagues.
C'est-à-dire que tu dis qu'il est américain s'il est né à New York ? Oui, on s'en doute un peu.
Tu peux habiter à New York et pas être américain ?
Oui, mais tu comprends, il est né à New York. Il n'est pas d'origine portugaise. Je suis pas Martin Scorsese. Je comprends ?
Vous comprenez pourquoi j'ai pris 2 mois de pause ? Alors, Martin Scorsese est né à Flushing.
À Flushing Meadows ?
Oui.
Il a fait du racket ?
Dans le quartier du Queens à
New York.
C'est bien. Au sein d'une famille sicilienne catholique traditionnaliste.
Traditionnaliste ?
Oui.
Ok, c'est traditionnaliste. Okay.
Enfant asthmatique.
Je suis ton père.
Et oui. Et frêle, qui n'est oui, pas ton cas, nourri au bon sandwich au gras, Gwen a pris 10 kilos, vous le reconnaîtrez bien.
M'appelle le blob.
Ah. Le jeune Martin Scorsese ne peut pratiquer de sport et ses parents l'emmènent fréquemment au cinéma. Quelle chance. Et pris donc d'une foi profonde. Non, pas d'allusion. Non, non, monsieur, vous arrêtez vos allusions.
Merci.
Il se destine d'abord à une vie religieuse et entre au séminaire en 56.
Oui, des fois c'est l'inverse aussi. C'est le séminaire qui entre en toi.
Apparemment, ça ne fait rire que lui. Eh bien, ça va être pratique. Donc, afin d'être ordonné prêtre, jugé trop jeune, il n'est alors âgé que de 14 ans, et indiscipliné pour s'engager si tôt dans le ministère sacerdotal.
Oui. Ministère amer.
Il est renvoyé au bout d'un an. Splendide, heureusement pour nous.
Oui.
Il termine donc ses études à la Cardinal High School dans le Bronx.
Ah oui, ça a fait un Bronx d'ailleurs.
Intègre l'université de
Virginia.
Non, de New York.
Ah bah oui. Bah, il aurait pu sortir. Ben non, il est resté. Martin, il est comme ça. Moi, j'y suis, j'y reste.
En 1960, où il fréquente les cours de cinéma à la
New York.
Non. À la Tisch School et obtient
Oui.
Tiens. Oui. Tiens, donc une maîtrise en 1966. Donc il sera d'ailleurs professeur dans cette university de 1968 à 1970. Des débuts prometteurs.
Oui.
C'était le chapitre.
Voilà, c'est ça.
On voit les guillemets.
Il réalise donc plusieurs courts-métrages, dont le très remarqué The Big Shave, que Gwen va nous parler tout de suite.
Non, pas du tout.
Donc on l'applaudit bien fort, il dit des blagues et il fait pas son boulot. Donc il remporte de nombreux prix. Puis il... Chut, tu arrêtes. Puis il signe son premier long-métrage, Who's That Girl... Non, c'est pas ça. Who's That Knocking At My Door, qui frappe à ma porte, voilà. Par Gwen. Qui va vous expliquer
tout ça. Who's Knocking At My Door. Avec un petit jeune qui commençait, Hervé Kettel.
Il me fait peur, je sais, Hervé Villa.
Oui, c'est... Et Zina Béthune. Donc, c'est un film en noir et blanc. Hein. Donc, l'histoire de J.R., pas John Ross, hein, c'est pas rien à voir avec Dallas, qui est une petite frappe de l'Italie. Et donc, il rencontre Suzanne. Et il se destine à l'épouser parce qu'il l'adore, il veut vraiment l'épouser rapidement. Mais il apprend qu'elle a été violée et donc il la repousse aussitôt. Voilà, c'était un petit film à budget à 50 000 dollars.
À combien ?
50 000 dollars de budget. Voilà, donc et c'est vraiment le début de l'œuvre de Martin Scorsese. On voit déjà un petit peu l'apparition de Taxi Driver, de Mean Street et de Raging Bull.
T'en fais trop.
Oui, je sais, merci.
T'as tué le suspense. Donc il est sorti le 15 novembre 1967, soit 3 ans après le premier tour de manivelle de Monsieur Scorsese. Ce film donc marque la rencontre avec l'un de ses acteurs fétiches, Harvey Keitel.
Ouais.
Yes, Gwen vous mettra une photo.
Oui.
Il y a plein de photos.
Ouais. Oui, j'adore les photos.
Donc il participe en tant que monteur et assistant réalisateur au film Woodstock de Michael Bayer. Sur le festival de Woodstock en 1969.
Quoi, oui, d'ailleurs, et la prochaine, il va faire le festival Psycho by Dub l'année prochaine. Voilà.
C'est tout ce que tu avais comme ânerie ?
Oui, tout à fait.
Au début des années 70, Martin Scorsese déménage à Hollywood, chewing-gum, et obtient un emploi de monteur à la Warner Bros. Il rencontre alors le producteur Roger Corman, qui lui offre la possibilité de tourner son premier film hollywoodien, c'est-à-dire Bertha Boxcar. Boxcar Bertha,
voilà.
Avec Barbara Hershey et David Carradine.
Oui. Et en fait, Bertha Boxcar, en fait, Boxcar signifie fourgon à bestiaux. Donc l'histoire, le résumé, le synopsisme. Donc le père de Bertha Thompson meurt sous ses yeux. Hein. Sous ses yeux alors qu'il était en train de travailler, qu'il était pressé par son employeur de finir son travail. Donc depuis, cette jeune Bertha sillonne l'Amérique de la Grande Dépression dans des wagons à bestiaux, d'où le nom. La jeune fille rencontre un syndicaliste, donc David Carradine, hein, qui recherchait son frère. Ah non, ça c'est Kung Fu. Qui est un jeune syndicaliste qui tente de pousser les cheminots à la grève à un joueur de cartes armé. Donc
ça veut rien dire ta phrase.
Oui, c'est l'histoire de 4 personnages, donc une ode au laissé pour compte de la Grande Dépression. Donc la jeune fille, le syndicaliste, un Yankee juif flambeur et un noir. C'était aussi les années 70, les années où les films américains savaient être divertissants et engagés.
Donc on peut dire que commence une carrière exemplaire, Monsieur Gwen.
Oui, tout à fait.
Et bien longtemps. Donc rencontre avec Mr. De Niro et premier Oscar. Pas le chien, Oscar. Donc, encouragé par John Cassavetes à poursuivre un style de réalisation plus personnel, Scorsese commence à travailler sur le film Mean Streets, qui relate le parcours de deux jeunes ambitieux de Little Italy. Donc, première œuvre du réalisateur acclamé par la critique, ce film est aussi le théâtre de la rencontre la plus importante de sa carrière, celle avec l'acteur Robert De Niro. Qui devient désormais son alter ego à l'écran. Le cinéaste s'apprête à devenir l'une des têtes de proue du nouvel Hollywood et Gwen va vous parler tout de suite de ce film.
Oui, alors effectivement, Robert De Niro, Hervé Keitel, donc 1973 à New York évidemment, dans le milieu, Tony et Charlie côtoient le haut du pavé des gangsters. Pour accéder à ce milieu, une seule règle, le code d'honneur. Ça va pour Charlie? Donc, Monsieur Hervé Keitel, puisqu'il a un oncle dans le milieu. Mais c'est une autre tisane pour Johnny, donc Robert De Niro, qui lui est criblé de dettes, bagarreur impénitent et qui va déraper en voulant faire le malin. Donc c'est l'histoire aussi de quatre amis, puisqu'il y a aussi Michael et Tony, et on trouve effectivement le personnage typique de De Niro, jeune, impétueux, désorienté et qui vit au jour le jour.
L'année suivante, Francis Ford Coppola lui ouvre les portes des studios Warner Bros. Il rencontre son premier succès public avec le drame intimiste Alice n'est plus ici.
Oui, avec toujours Harvey Keitel, Chris Christopher. Hein. Donc, dans les années 70, Alice, qui croyait à 8 ans devenir une star, est désormais à 35 ans une femme au foyer malheureuse, avec un mari indifférent et un garçon de 10 ans. Mais ce premier meurt et Alice décide de changer sa vie. Elle veut devenir chanteuse à Monterey en Californie. Mais hélas, elle finit comme serveuse et rencontre un homme divorcé et propriétaire de ranch. Mais hélas, la vie est pleine de désillusions. Un superbe portrait de la relation mère-fils avec Hélène Bernstein qui crève l'écran. Quelques rires malgré la dureté du sujet tout de même. Parce que c'est quand même un film assez âpre et assez dur.
C'est bien, ouais. Donc ça dénote bien l'influence de Cassavetes.
Oui, Cassavetes.
Cassavetes. Oui. Et permet donc à madame Hélène Bernstein d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice en 75 pour son interprétation de femme au foyer malheureuse, comme on a dit, monsieur Quen.
Oui, c'est vrai.
Donc là, on vient tout de suite à 1976 avec la Palme d'Or au Festival d'Escanes. Donc dès son film suivant, il obtient la Palme d'Or. Je me répète là, non?
Oui. C'est le succès. C'est il martinier comme ça. Il Oscar. Voilà. Il est comme ça.
D'accord.
Sauf dans les années 80.
Au 29e, donc, il obtient sa palme d'or. Au 29e Festival d'Escanes en 1976 dans Taxi Driver. Drame psychologique sur fond de difficile réinsertion des anciens combattants de la guerre du Vietnam et est interprété par Robert De Niro, Jodie Foster et Harvey Keitel. Ce film écrit par Paul Schrader assoit définitivement l'univers scorsésien, donc c'est-à-dire faune new-yorkaise, personnage à la dérive, confusion du bien et du mal, violence cathartique. Ça vient du
Oui, c'est parce que tu te mets un truc sur les têtes et puis c'est voilà.
D'accord. Et questionnement métaphysique. Donc Taxi Driver reçoit également 4 nominations aux Oscars en 1977. Gwen va tout de suite expliquer
oui,
ce film.
Oui, alors Travis Bickle est chauffeur de taxi. Il rencontre à travers ses voyages nocturnes un échantillon de la faune new-yorkaise et petit à petit, il va perdre la tête. Il se sent investi de la mission de délivrer une prostituée mineure, donc la jeune Iris, Jodie Foster, hein, qui avait allé à l'époque, je crois, à 13-14 ans, de ses souteneurs. Et c'est la fameuse réplique « You are talking to me ». Talking to me ?
Merci, Mr. Quenou.
Oui, donc c'est un film choc, un vétéran du Vietnam obsédé par cette violence qui glisse dans les rues sombres de la Grande Pomme. Une superbe évolution de cette folie que porte Travis jusqu'à la violence. De Niro en Iroquois et la jeune et jolie superbe prostituée junkie Scorsese a su décrire New York de façon sombre. Ce personnage désorienté va vouloir une stabilité avec une jeune femme rencontrée dans un meeting, mais le fossé est déjà là, fatal. Il est un militaire en guerre et son idéal sera l'innocence d'Iris.
Fort de ce nouveau succès, l'année suivante, Scorsese et De Niro se retrouvent une nouvelle fois dans
New York.
Ok, avec Liza Minnelli.
Oui.
Qui raconte une histoire d'amour mouvementée entre une chanteuse et un saxophoniste en quête de gloire. Le film est un cuisant échec commercial.
Et oui, c'est au lendemain de la victoire sur le Japon, un jeune soldat troque son uniforme pour celui plus élégant et à la mode de saxophoniste. Il va au Starlight, donc un club, et rencontre Francine, une jeune chanteuse. Il tente de la séduire, mais en vain. Le hasard fera qu'ils se rencontreront de nouveau et ils vont s'aimer, gravir les chemins de la gloire et se séparer et se retrouver 10 ans plus tard. Première comédie musicale, un hommage au genre, dirais-je même, à travers la vie d'un couple que la musique va malgré eux séparer. Une demi-heure assez fantastique, il est vrai, mais c'est vrai que ouais, c'est un échec tout de même.
Oui. En 1977, donc, Minnelli propose malgré tout à Scorsese de mettre en scène un spectacle à Broadway, The Act. Mais il abandonne au bout de quelques semaines car cette expérience lui déplaît. Le cinéaste vit alors avec Robbie Robertson,
ex-guitariste et leader du groupe The Band, avec lequel il passe des nuits blanches à regarder des films, fréquenter des cocktails et discuter musique et cinéma. Scorsese est alors sérieusement dépendant à la...
cocaïne.
C'est bien, bonne mine. En 1978, sort le documentaire La Dernière Valse, The Last Waltz, consacré au dernier concert du groupe The Band de Robbie Robertson. Donc Scorsese a filmé ce concert le jour de Thanksgiving 1976 au Winterland de San Francisco. Parmi les invités du band, figure Gwen.
Oui, j'étais là. J'étais tout petit, mais j'étais là.
D'accord, figure Neil Young, Joni Mitchell, Ringo Starr, Van Morrison, Eric Clapton et Bob Dylan, fans du groupe. Scorsese storyboard toutes les chansons avant le concert. Donc, 2 années sont nécessaires pour la sortie de La Dernière Valse en salle. Le réalisateur tourne par ailleurs des interviews et des morceaux supplémentaires tout au long des années 77 et 78. Il en sort fatigué sur le plan intellectuel, physique et psychologique en raison de sa forte consommation de
cocaïne.
1980, c'est parti. Wrecking Ball.
You fuck my wife, you fuck my wife.
Encore faut-il avoir une wife.
Elle était bien, 1-0.
C'est dans un état physique et psychologique épouvantable qu'il se remet à l'ouvrage, bien épaulé par Roro
De Niro.
Oui, pour réaliser l'un de ses chefs-d'œuvre, Wrecking Ball. Le film, porté par une grande intensité dramatique, manifeste un usage très personnel du noir et blanc, des mouvements de caméra et des ralentis. Pour sa performance mémorable dans le rôle du boxeur Jack LaMotta, Robert De Niro reçoit l'Oscar du meilleur acteur, désormais considéré comme l'un des cinéastes américains les plus inventifs et les plus audacieux. Scorsese enchaîne les films remarquables.
Oui, tout à fait. Donc, la vie explosive de Jack LaMotta, le taureau du Bronx, champion de boxe poids moyen, qui a des débuts modestes et qui est un héros des combats mythiques contre Sugar Ray Robinson et notre cher national Marcel Cerdan. Par contre, c'est un personnage paranoïaque, you fuck my wife, et autodestructeur, tiraillé entre damnation et le désir d'un salut. Il termine comme patron d'une boîte de nuit. L'épopée est certes un peu longue par moments, filmée en noir et blanc, mais Martin a su imprimer au combat un véritable impact physique, certes un peu fastidieux aux comédiens, mais qui donne un réalisme impeccable pour les spectateurs. Oui, parce que la scène du combat était très longue à tourner. Tu vois, en fait, la caméra était vraiment dans le ring, et il paraît que c'était assez compliqué pour les comédiens.
Donc, il enchaîne donc les films remarqués, notamment La Valse des Panthères en 1983.
Avec donc toujours De Niro, hein, on continue avec notre cher comique Jerry Lewis. Donc Robin Pumpkin, un comique méconnu, veut accéder lui aussi à la gloire. Alors un soir, il s'approche d'un animateur vedette du petit écran, Jerry Lurford, et il voit en cette rencontre un heureux présage et se voit déjà participer au show. Mais il sera vite déçu et décide de concevoir avec un fan un peu dérangé un plan pour monter enfin vers les marches de la gloire. Malgré un titre quelque peu amusant, ce film montre la déchéance d'un homme qui voulait faire rire et qui vit dans une illusion. Il a eu un échec commercial parce qu'en fait, ils ont pris un contre-pied avec justement Jerry Lewis, qui là est vraiment un rôle assez sérieux, et donc voilà, ça pas très bien marché ce film.
On peut dire que c'était un film quand même. C'était donc une satire du milieu télévisé et de la célébrité. Voilà. Donc ensuite, en 1985, qui narre l'errance nocturne d'un informaticien dans la jungle new-yorkaise, After Hours.
Ah oui, avec Griffin Dunne et Rosanna Arquette, donc la soirée cauchemardesque d'un homme qui rencontre une femme. Elle lui lance son adresse, il va chez elle, mais en route perd son billet de $20 dans son taxi. La nuit ne cessera d'être cauchemardesque pour lui. C'est l'un des films les plus méconnus de Martin, une odyssée nocturne dans Soho, hein, le fameux quartier de New York.
Yes.
Apocalyptique, mais diablement bien maîtrisé.
Très bien, Mister. Donc ensuite, en 1986, on retrouve La Couleur de l'Argent, qui prend l'univers du billard en toile de fond. Ce dernier film, interprété notamment par Tom Cruise, vaut à Paul Newman l'unique Oscar du meilleur acteur de sa brillante carrière.
Oui, il y a Marie-Elisabeth Mastrianino et Forest Whitaker, ainsi que John Turturro. Donc c'est un film sur le billard, comme on l'a dit, et dit le fortiche Forst Eddy en VO, est un ancien arnaqueur. D'ailleurs, ça fait un peu référence à la grande arnaque de Paul Newman. Enfin, avec Paul Newman. Est devenu représentant d'alcool. Il va rencontrer Vincent, donc Tom Cruise, un jeune joueur brillant au billard. Les
Quoi?
Vieux démons vont refaire surface. Le maître et l'élève vont se confronter. Et ensuite, ce sera la rivalité. Et puis, ce sera la leçon finale. Voilà, la rencontre du vieux renard et du jeune loup.
Donc s'ensuivent le film de gangster Les Affranchis en 1990 qui vaut l'Oscar du meilleur second rôle à Joe Pesci.
Et La Dernière Tentation du Christ, non?
Ah pardon, oui. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Donc en 1988, comme l'a dit Mr. Green. Mr. Green?
Oui, je suis Mr. Green.
Ok, Martin Scorsese réalise ensuite son rêve d'enfant en signant un film sur le Christ.
Oui.
La Dernière Tentation du Christ, The Last Temptation of Christ, yeah. Adapté du roman éponyme de Nikos Kantzaskis. Non, Kantzaskis.
Kantzaskis? Quand il va au skis?
Le film donc bouscule le dogme religieux et fait scandale, car il met en scène Jésus, ou Résus,
Jésus. Non, Jésus.
Jésus.
Ce qui est Résus. Il était positif, hein, il est vrai, mais...
Abandonnant son statut de prophète pour l'amour de Marie-Madeleine.
Eh oui.
Donc des manifestations ont lieu un peu partout où le film sort et le cinéma Espace Saint-Michel à Paris est incendié, malheur. Pour autant, le film concourt aux Oscars de Scorsese, reçoit donc sa seconde nomination comme meilleur réalisateur.
Oui, donc avec William Dafoe qui joue Jésus et Hervé Keitel toujours qui joue Judas. Donc c'est la vie de Jésus.
Et qui
hein.
joue Marie-Madeleine?
Marie-Madeleine, je sais pas, je sais plus, je sais pas.
Quoi, tu fais ton travail à moitié?
Non, mais c'est
tu
pas
quelqu'un... Tu veux qu'on le fouette?
Oui.
Fouettez-moi, fouettez-moi, ça va...
Donc la vie de Jésus... La vie de Jésus. Donc, il veut vivre une vie normale avec donc Marie-Madeleine, M&M, si on l'appelait. Hein. Mais Dieu veut faire de lui un messie. Mais non, messie. Donc, il demande à Judas...
Il a fallu l'oser, celle-là.
Oui, ah bah oui, excusez-moi. Il demande à Judas, donc, de le trahir pour qu'il soit sacrifié par les Romains. Un ange apparaît et le sauve. Il lui dit qu'il a le choix. Soit il devient Messie, soit, eh ben, ma foi, il peut... Parce qu'en fait, il n'est pas le véritable Messie et il peut vivre sa vie
véritable,
d'homme.
Véritable, il joue au foot.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il peut aller au FC Barcelone et quitter le FC Jérusalem. Et donc, eh ben, ma foi, Jésus accepte, aime Marie-Madeleine, vieillit, et à un moment, alors que Jérusalem est justement à feu et à sang, Judas lui avoue que cet ange n'est autre que le diable lui-même, Satan himself. Et donc, bah, ma foi,
c'est bien
Jésus
dire, ça,
revient et parmi les siens, et il se sacrifie. Alors, par contre, je pense que ce qui a surtout choqué, comme tu disais, c'est que Jésus n'accepte pas son rôle de Messie, hein, de faire partie de la Sainte Trinité, hein, le Dieu, le Père et le Saint-Esprit, comme dirait l'autre. Donc, évidemment, ce film n'est pas aussi abouti que celui de Mel Gibson, hein, peut-être aussi un peu moins sanglant, il est vrai
c'est
aussi.
C'est la passion, lui. Hein.
Mais voilà, c'est ça. Et il a surtout su éviter les écueils et donner à son Jésus une dimension justement humaine. Et c'est justement à ce à quoi, je pense, les croyants ont été assez choqués de ce côté-là, puisque... Par ma foi, il est
quant
le
ta foi.
Oui, tout à fait. Il est le fils du Père, et donc voilà. Bah oui, le fils Dieu, hein,
oui,
c'est le fils du Père.
Oui,
hein. En nom du Père. Oh, comme j'ai scotché là. Ah non, j'ai scotché.
Donc parallèlement à cette carrière,
oui.
Et en grand amoureux de l'histoire du cinéma, il crée donc Mr. Scorsese The Film Foundation en 1990 avec sept de ses amis. Cette fondation a pour but d'encourager la restauration et la préservation du patrimoine cinématographique mondial.
Oui.
Donc on y vient enfin en 1990,
oui.
Avec Les Affranchis, oui. Le film de gangster que Gohan va vous parler.
Oui, et donc avec De Niro, Ray Liotta et Joe Pesci. Donc voilà, et le grand retour au milieu de la mafia de notre cher Martin. Donc il commence avec cette fameuse phrase « Autant que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster ». Henry Hill, Ray Liotta, a toujours voulu être gangster. Il a dû la famille Lucchese. Et rendant son rêve réel, il quitte l'école pour rentrer dans la mafia. Son père irlandais veut lui montrer la véritable image de la mafia, mais il fait déjà partie de la famille. Et le chef de la famille Lucchese, Sorvino, et son bras droit Johnny Conway, donc De Niro, vont lui apprendre à devenir un affranchi, dont il fera la règle, son credo, on ne balance pas un membre de la famille. Il devient un affranchi suite à un vol, le fameux cas du vol Air France, hein, puisque c'est une histoire vraie. Hein. Mais voilà, le monde n'est pas si rose et Henri l'apprendra à ses dépens, puisque c'est effectivement un film sur la mafia et le personnage d'Henri, membre de la famille Lucchese, va devenir indic pour le FBI. Voilà, donc De Niro impeccable, Liotta aussi et Joe Pesci est terrifiant, impeccable et imprévisible.
107.5 FM RDWR.fr.
Voilà.
Super. Donc ensuite, Mister, on retrouvera le Sweller, les nerfs à vif en 1991. De succès, donc avec encore le Robert De Niro, le même année. Il est récompensé par la Cinémathèque américaine.
Oui.
Pour l'ensemble de son œuvre.
C'est bien.
Les nervis. Donc, il y a donc, aussi, comment il s'appelle dedans ?
Nick Knoll. Ouais, c'est ça. Ouais, Jessica Lange.
Joue un avocat,
Lewis.
Lui. Hein.
Oui,
et
voilà.
Et Robert De Niro, c'est le méchant.
Non, c'est l'inverse.
Non, Robert De Niro, c'est le méchant. Ah oui, ça finit après dans le bateau. Là, c'est non. Ça.
Oui, parce qu'en fait, Les nerfs à vif, c'est un remake de celui de Jack Lee Thompson. Max Cuddy retrouve la liberté après 14 ans de prison pour viol et voix de fait sur mineur.
Ah, oui,
il décide de se venger sur son avocat et qui a fait disparaître un rapport pouvant lui être favorable. Max Cuddy, et c'est Martin qui le dit, est davantage que l'esprit de vengeance. C'est un esprit malin qui représente la peur et la culpabilité de chaque membre de la famille.
Je suis pas bien, docteur. En 1992, il crée Martin Scorsese Presents, une foundation qui restaure et exploite les grands classiques du cinéma, puis réalise son premier film à costume avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder.
Oui.
Le temps de l'innocence.
Wow.
D'après le roman éponyme d'Edith Wharton, publié en 1920, l'œuvre est un nouveau succès critique et public, qui croule sous une pluie de nominations aux Oscars. Mais le cinéaste rate à nouveau la statuette.
Oui, c'est une étude minutieuse de la haute société new-yorkaise des années 1870, à travers un homme partagé entre deux femmes, two ladies. Ses intrigues, ses secrets, ses scandales. Pas de violence physique, mais une violence plus sournoise, celle du jugement. Un superbe duo, sans doute le film le plus esthétique de Martin. C'est la grande histoire d'amour entre Michel Feuffet et Daniel Day-Lewis, qu'on retrouvera quelques années plus tard, avec un œil en moins.
C'est chose qui arrive. Donc, avec Casino en 1995, Scorsese retrouve le monde des gangsters dans une grandiose épopée sur l'ascension. L'ascension et la chute d'un patron d'un grand hôtel casino de Las Vegas, inspiré de Frank Rosenthal dans les années 1970. Donc il retrouve pour la 8e fois et dernière à ce jour, Robert De Niro, mais aussi Joe Pesci et Sharon Stone, qui remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et est nommé pour la première fois à l'Oscar de la meilleure actrice.
Voilà, dans les années 70, Sam Hayes, Rose Shine, donc Monsieur De Niro, dirige de main de fer l'hôtel casino Tangier, qui est financé par le puissant syndicat des camionneurs, qui est évidemment un paravent de la mafia de Chicago. Il est l'un des grands Manitou de Las Vegas. Son ami d'enfance, Nicky Santoro, Joe, l'aide dans cette tâche, mais ce dernier va glisser dans un chemin plus sombre et criminel. Malgré sa rigueur, Ace va tomber amoureux d'une fille de la nuit, Ginger, Sharon. Il l'épouse, il lui fait un enfant et lui ouvre les portes de la ville de lumière. Mais le couple va vite sombrer. Ginger ne peut oublier son ancien souteneur, James Wood, et le paradis va commencer à s'effriter avant de tomber tel un château de cartes. L'affrontement de deux hommes pour le pouvoir, le juif qui a tout réussi et l'italien qui sait se salir les mains. Ils ont grandi ensemble, mais le jeu et l'amour aura raison de cette amitié. Pas de rédemption, un film grande classe, violent mais sublime.
tout à fait. Hmm. Mais tout à fait.
Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Avec, non, après, je veux dire.
Oui, c'est oui. Mieux, oui.
Après Casino, il termine son fameux documentaire de 4 heures sur le cinéma américain avec Michael Henry Wilson. Un voyage, un voyage.
Un voyage, oui. Oui, un wagon. Oui. C'est super. C'est super. Moi, j'ai beaucoup essayé. C'est... Oui, 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 oui.
Oui, on a compris. Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain commandé par le British Film Institute pour célébrer le centenaire de la naissance du cinéma.
Ouais.
Puis, Martin Scorsese est honoré de la prestigieuse récompense du Life Achievement Award par l'American Film Institute en 1997 pour l'ensemble de sa carrière.
Encore ?
Yeah. Ouais. Ils aiment ça. Là.
Oui, tu as fait 2 films. On te célèbre tu as, pour l'ensemble de ta carrière. Comme ça, il peut faire un 3e film. Hop.
Entre les films Kundun.
Oui,
en 1997, qui évoque la jeunesse du 14e Dalai Lama.
Oui, l'histoire de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, réincarnation du Bouddha de la grande compassion, de sa naissance et jusqu'à sa fuite du Tibet en 1959. C'est un film rare, un biopic, oui, j'ai pu la placer celle-là, bien orchestré, mais un manque certain de rythme qui lui nuit un peu.
En gros, c'est chiant, quoi.
Non, c'est pas chiant, mais bah non, mais c'est-à-dire que non, mais
chiant, hein.
Mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire que effectivement, t'as quand même une sacrée différence entre en Les Affranchis, Casino et Kundun.
Kundun, c'est pitoyable, comme ton univers. Donc ensuite, on retrouve À tombeau ouvert avec Nicolas Cage en 1999.
Oui, avec Patricia Arquette. Yeah. Avant, il y avait Rosanna, maintenant il y a Patricia. Et John Goodman. Donc 48 heures dans la vie d'un ambulancier, Monsieur Frank, qui sillonne de nuit les quartiers chauds de New York, opérant dans l'urgence et hanté par toutes ces vies qu'il n'a pas pu sauver. Un film qui n'est pas sans rappeler Taxi Driver, un homme qui roule dans sa ville, insomniaque, presque en dehors du monde. Plus dynamique que Taxi, un humour très noir et une bande sonore plus rock'n'roll. Van Morrison, Clash R.E.M., un film un peu ignoré, placé entre l'OVNI Kundun et l'explosion de l'association Martin et Leonardo.
Oui, donc il préside le jury du Festival SKNS en 1998 qui décerne à l'unanimité la Palme d'Or à l'éternité et Un jour de Théo Angelopoulos.
Ah oui,
mais l'image forte de cette édition reste la remise du Grand Prix à Roberto Benigni pour La vie est belle, au cours de laquelle l'acteur-réalisateur italien se jette aux pieds de Scorsese avant de le prendre dans ses bras et de le soulever des joies.
Ouais, la vie est belle, mais alors, quelle joie, je connais, c'est quoi ça?
2002 marque une nouvelle date essentielle avec un Z dans la carrière du réalisateur jusqu'à la... Puisqu'à l'occasion du film Gangs of New York, fresque épique et flamboyante sur les premières guerres de clans dans le New York du 19e siècle. Donc c'est là que Scorsese rencontre Leonardo DiCaprio, dans lequel il tourne 2 autres films consécutivement que je parlerai après.
C'est mieux. Donc, effectivement, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, Brendan Gleeson. En 1846, le quartier des Five Points, faubourg pauvre de New York, est le théâtre de conflits entre les immigrants, gangs d'Irlandais sous la coupe du père Vallon, les Dead Rabbits, et les Native Americans menés par le sanguinaire Bill the Butcher. Bill le boucher. Bill tue le père Vallon, son fils Amsterdam, donc, qui est une référence puisque
oui,
New York avant s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Voilà, merci. Donc décide de le venger. Mais Bill est complice avec Boss Tweed, un politicien influent. Amsterdam parvient à s'attirer les grâces de Bill et rencontre Jenny. Mais where is Jenny?
She's in Brian.
What? Amsterdam! Non, Amsterdam Ed! Donc voilà, et évidemment, la rencontre va évidemment compliquer la vengeance.
Oui, c'est un très beau film.
Oui, c'est un beau film. C'est un projet que Martin avait en tête depuis les années 70. Leonardo remplace parfaitement De Niro. Facile de voir aussi l'affrontement entre les natives et immigrants que Martin a dû lui affronter dans son enfance. L'histoire de New York, d'Ellis Island, cette fameuse île qui voyait tous les immigrants passer. Évidemment, aussi la grande guerre, puisqu'il y avait en même temps la guerre de sécession qu'à cesser, c'est sûr. Voilà. Puisque tu, on voit cette image des immigrants qui débarquent et dont on fait signer un papier et qui partent tout de suite aller faire la guerre.
C'est voilà. Splendide. Donc tout de suite après, en 2004, on retrouve Aviator.
Oui, Aviator.
Qui s'inspire de la vie d'Howard Hughes et vaut à Kate Blanchett l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation de Catherine Hepburn.
Oui, la vie de Howard Hughes, ce grand millionnaire, cet homme fantasque. Donc, ce film commence avec le film Les Anges de l'Enfer, Howard Hughes et le réalisateur en 1930, jusqu'au vol de son fameux grand avion, le Spooch Goose.
C'est un quadrimoteur,
était...
non ?
Ouais, ouais, qui était le plus gros avion de l'époque. Hein, et qui reste
un hydravion, non ?
Oui, oui, c'était un hydravion, oui, tout à fait. Et bah oui, c'est, ça s'appelait Loi Goose. Mais... Donc, c'est la vie de ce richissime homme d'affaires, passionné d'aviation, amoureux des grandes femmes, donc Catherine Hepburn, Kate Blanchett, Ava Gardner, Kate Beckinsale, Gwen Stefani qui joue Jean Harlow, auréolé de gloire et pourtant si mystérieux, il finira enfermé dans un hôtel à regarder des films, un peu comme moi finalement. Il faudra une expertise médicale pour le reconnaître tellement il avait maigri, tellement il s'était laissé pousser les cheveux, les ongles et tout. Donc c'était super. C'est un, certes un biopic un peu long puisqu'il dure quand même 2h45, mais il est légendaire comme son héros. Et Leonardo l'habite parfaitement.
L'habite ?
Oui, l'habite.
Merci Vincent.
Roger l'habite. Oh. Vous êtes toujours donc sur 107.5 RDIWA et vous écoutez l'émission ATC, l'émission qui vous plaît.
Ok, donc c'est splendide.
Yeah.
Et donc nous tombons en 2006.
Oh. Aïe. Ça les... fait mal.
Avec Les Infiltrés, donc portés par une distribution de premier ordre. Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Alec Baldwin ou encore Vera Farmiga. Donc grâce à ce dernier film, remake du film Hong Kongé.
Oui, tout à fait, Infernal Affair.
Il est très bien d'ailleurs. Oui. Réalisé par Andrew Lau et Alan Mack, il obtient donc le plus grand succès public de sa carrière et remporte le Golden Globe du meilleur réalisateur avant de triompher aux Oscars, enfin, du cinéma. Ah, Les Infiltrés gagnent en effet 4 statuettes en 2007, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté à donc William Monahan, d'après Internal Affairs. De Xu Fai Mak et Félix Chong, pas Félix Kat.
Félix,
et meilleur Félix. Montage de donc, Thelma Schoonmaker, dont c'est le troisième trophée remporté grâce à un film de Scorsese après Greg Gimbel et Aviator.
Oui, tout à fait. Donc voilà la ville de Boston. Yeah. Oui, on n'est plus à New York, c'est yes. Boston qui lutte férocement contre la pègre irlandaise. Cette fois-ci, ce n'est pas Little Italia, mais c'est les Irlandais. Donc tout ça pour en finir avec le big boss Frank Costello. Donc la police décide d'infiltrer un bleu. Ah, donc un Jones, hein, un padawan, si on peut dire ce mot-là, issu des bas quartiers. Donc Bill Costigan, évidemment, notre
Carpaccio.
Cher Carpaccio. Voilà, tout à fait. Et de son côté, Colin Sullivan entre dans la police au sein de l'unité spéciale chargée d'éliminer justement Costello. Donc Collins, comme Costigan, mène tous deux une double vie qui menace à chaque instant de faire de Capoté, basculer ouais. dans leur propre réalité. Voilà.
Un monde obscur.
Oui, tout à fait. Non, c'est pas Inception, mais malgré qu'il y ait Leonardo. Donc voilà, donc ils commencent à perdre un petit peu leurs repères. Il y a évidemment des pièges de halou, des traquenards, des fonds semblants, jusqu'au jour où, ton lit suspense, les deux camps apprennent l'existence d'une taupe. Voilà, taupe 1 et taupe 2 et taupe gun. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est là que va débuter une course contre la montre pour savoir qui est la véritable taupe. Voilà, et c'est un film qui
grandiose
vraiment...
encore, comme d'habitude.
Hein? Grandiose, oui, tout à fait. Un duel redoutable entre deux univers, donc la police et les gangsters, que tu vois qu'ils vont quand même utiliser des méthodes qui sont pas jolies, hein. Et deux morales, deux hommes de main de maître. Martin, une main de maître. Voilà, je n'ai ça que ça à dire. Main de maître.
L'année suivante sort donc encore et toujours un documentaire très personnel sur les Rolling Stones, axé sur la captation d'un spectacle du mythique groupe de rock britannique.
Un concert, quoi.
Shine a Light. Ouais, si tu veux.
Excuse-moi, c'est pas...
Tu se tais.
Tu se tais ?
Oui. En 2010... il retrouve pour la quatrième fois l'acteur Leonardo DiCaprio.
Oui.
Plus connu sous DiCaprio.
Oui, tout à fait.
Dans Shutter Island.
Dit l'homme de glace.
Adaptation du thriller du même nom de Lenis Lohan.
Shutter Island. Avec aussi Mark Ruffalo et Ben Kingsley. Donc, tout commence en l'an de grâce 1954, que le marshal Teddy Daniels, donc notre cher Léo, hein, et son coéquipier Chuck Hall, donc Mark Ruffalo, sont envoyés sur Shutter Island, un hôpital psychiatrique. Tu connais les hôpitaux psychiatriques ?
Si on pouvait avoir une voix normale pour comprendre.
Non, je ne fais pas des voix normales. Donc, où sont enfermés des dangereux criminels ? Évidemment, l'une des patientes, Rachel Solando, sans explication aucune. La porte ferme de l'extérieur, il n'y a pas de fenêtre. Enfin, si, il y a des fenêtres, mais avec des barreaux. Donc, on se demande, et il n'y a juste qu'un petit mot, qui est une suite de chiffres et de lettres. Toum, toum, toum. Sans aucune logique. Mais Teddy est obsédé par un certain Andrew Ladies, un pyromane responsable de la mort de sa femme, Dolores. Et Teddy avoue à Chuck qu'il est là aussi parce qu'il croit que cet hôpital se sert de ses patients pour des expériences interdites. Un film comme une claque, une ambiance terrible, une atmosphère prenante et étouffante et des retournements rondement bien menés. On comprend pas tout ce qui se passe bien.
Comme quand tu parles.
Bah, c'est ça. Mais non, je me suis mis au diapason. Non, je pense. Alors, le seul défaut peut-être de ce film, effectivement, c'est comme certains films, c'est-à-dire que quand tu l'as vu une fois, bah, ça perd quand même sacrément de son charme. C'est des films où tu ne peux regarder qu'une fois, sinon tu connais la surprise et c'est moins chiadé quand même.
Tu coupes à la surprise avant.
Comme ça, tu le regardes 14 ouais. fois, tu dis « Ah, je sais pas !» Ouais, c'est comme, comme Usual Suspect, c'est-à-dire après, tu sais le truc.
Le 13 décembre 2010, Martin Scorsese participe à un gala de bienfaisance en faveur de la Foundation David Lynch au Metropolitan Museum of Art à New York. Il parle donc par vidéo de son expérience de la méditation transcendantale qu'il pratique depuis plusieurs années. Il est difficile de décrire l'effet que cela a eu sur ma vie, pas la mienne.
Ah oui, c'est vrai ?
Je ne peux que citer quelques mots. Calme, clarté, équilibre et parfois une reconnaissance. Gwen, c'est pour toi la méditation transcendantale ?
Non.
Tu ne transcendes pas, c'est bien.
Non, moi,
Scorsese dit qu'il ne lui est pas possible d'imaginer le genre de stress qui affecte les anciens combattants qui sont victimes de troubles de stress post-traumatique et il demande au public de soutenir la fondation David Lynch. Vient l'année 2011 avec Living in the Material World. C'est un documentaire sur la vie de George Harrison. Scorsese et Harrison sont liés par la musique et la spiritualité, pratiquant tous deux la méditation transcendantale. Le nom du film Living in the Material World, Vivre dans le monde matériel, est emprunté au titre de l'album studio de l'ex-Beatles George Harrison. Donc Olivia Harrison participe activement à l'élaboration de ce film en fournissant notamment de nombreux documents personnels.
Yeah.
Donc Martin et Olivia en français choisit symboliquement pour la première du film le théâtre de la petite ville de Fairfield dans l'état américain de l'Iowa.
L'Iowa. L'Iowa.
Qui est le siège d'une université fondée par Maharishi Mahesh Yogi.
Ah oui, Mahesh Yogi.
Non, tu vas me dire une connerie, tu te. Que George Harrison avait rencontré en 1967 et suivi en Inde en 1968. Le public était composé de 500 méditants.
C'était pas une histoire avec Yogi l'ours, non ?
C'est pitoyable. Cette projection exclusive est offerte en soutien à la fondation David Lynch dans son entreprise à enseigner la méditation transcendantale aux écoliers des quartiers difficiles, aux détenus des prisons, aux anciens combattants, aux sans-abri, aux Amérindiens et aux autres populations à risque.
Ouais, je suis zen, moi. Yo.
Vient 2011 toujours. Scorbut.
Ouais.
C'est nul. Scorsese tourne à Paris, Hugo Cabret,
oui,
qui sort en salle en décembre 2011. Le film est une adaptation libre du roman L'invention de Hugo Cabret de Brian Selznick. qui évoque la vie de Georges Méliès et lui rend hommage. Oui. Georges Méliès y est interprété par Ben Kingsley. C'est la première fois qu'il tourne un film pour enfants et que Scorsese utilise la technologie 3D. Succès critique et public, Hugo Cabré vaut au cinéaste un nouveau Golden Globe et gagne ensuite 5
Oscars.
Oui, c'est ça. Lors de la 84e cérémonie en 2012.
Oui, il y a aussi la présence de Sacha Baron Cohen. Donc, Paris, fin des années 30, Hugo est un jeune orphelin. Oui, je suis orphelin. Qui vit dans une gare. Son passé est mystérieux. Oh là là. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé. En forme de cœur, évidemment.
Évidemment.
Voilà. Il rencontre Isabelle.
Ah.
Donc, il est avec elle, il trouve la clé. Et c'est le début de l'explication du mystère. Un petit film magique, plutôt pour les enfants, hein, pour les petits enfants.
L'as-tu vu ?
Oui, je l'ai vu. Un joli conte moderne avec en héros guest star, le précurseur des effets spéciaux. Georges Méliès. Voir la fusée dans l'œil de la lune, eh ben c'est lui. On pourrait dire que tout ça pour ça. Mais au final, on a droit dans une carrière de faire un film un peu plus léger. Parce qu'effectivement, quand on a fait Casino, quand on a fait Les Affranchis, quand on a fait Gang de New York, eh bien des fois, c'est aussi reposant de faire un petit film. Eh bien ma foi...
Il ne voulait pas se reposer, il voulait s'essayer au cinéma.
Oui, non mais ça d'accord, non mais ça je suis...
Mais c'est différent.
Oui, non mais je veux dire, pour... non mais comprends, quoi, que, comprends que pour les aficionados de, comment ça s'appelle, de Martin Scorsese, faire un film comme ça, c'est comme quand dans un groupe de hard rock, on fait une chanson qui va aller spécialement pour la radio. On ne comprend pas. C'est juste pour s'élargir et que, eh ben voilà, ils ont envie d'essayer d'autres choses. Eh ben comme Martin, il a essayé, il a assez réussi. Moi, je trouve ça assez enfantin. Il est vrai, mais bon après. Hein.
Oui, tes avis.
Ouais, merci. Super. Ok.
Donc, vient l'année 2000, Thérèse. En août.
En août.
Oui.
Oui, en
août. C'était le mois dernier.
Oui, c'est ça.
2012. C'était l'année dernière.
Oui.
Donc, il entame le tournage de Le Loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street in English. Oui, d'après les mémoires du courtier en bourse Jordan Belfort, incarné par Leonardo DiCaprio,
oui,
pour
toujours
sa cinquième collaboration avec le réalisateur. Le film sortira en demi-thérèse, donc il sort bientôt. En demi-thérèse, il est également l'un des producteurs délégués.
Il sort le mois prochain.
Du film franco-américain Malavita de Luc Besson.
Si, tout à fait. Oui.
Tu peux nous en parler de Malavita?
Non,
merci, au revoir.
Non, mais Le Loup de Wall Street, je peux.
Yes, vas-y.
Oui, donc Jordan Belfort est un courtier en bourse qui a passé 20 mois en prison pour avoir participé à une gigantesque arnaque.
Je ne sais pas s'il sort pas au mois de novembre.
Non, il
octobre
sort en octobre. Et qui a dévoilé une corruption régnant à Wall Street. Tu vois, c'est tout ce spectacle des gens qui gagnent tant d'argent et qui le dépensent, ma foi, fort inutilement. Et il faut aussi voir qu'il y a la présence de Jean Dujardin aussi.
Dedans ? Bon,
oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, il y a Malavida. Malavida, en fait, c'est donc dans Luc Besson. Et c'est d'après l'œuvre de Tonino Benacquista. C'est des gens de la mafia qui vont... puisque le héros, le père, hein, n'est-ce pas, De Niro, va devenir indique au FBI. Donc, ils sont protégés d'après le fameux programme de protection des témoins. Et donc, ils vont arriver en France, dans un tout petit village. Malencontreusement, ma foi, ils font partie de la mafia. Et les enfants ont, hélas, des petits ennuis avec leurs camarades. Et donc... ça va être difficile de cacher leur lien avec la famille.
Ça a été long. Donc, tout ce qu'on peut dire encore. Donc, Barbara Defina, donc l'ex-femme de Mr. Scorsese, a produit tous ses films à partir de La Couleur d'Argent jusqu'à Tombeau Ouvert. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Mr. Scorsese s'est essayé à la pub, puisqu'en 86, il a fait Armani 1, 88, Armani 2, 2007...
Retour d'Armani. Armani. Le retour.
2007, donc The Key to Reserva, film publicitaire pour Frexnet, une marque d'alcool catalane inspirée par un script inachevé écrit par Albert Hitchcock. En 2010, il a fait Bleu des chats noirs. En 2012, on retrouve donc Siri, le logiciel pub pour Apple. On a le droit de faire la pub. Et oui, aussi, on le trouve avec des clips vidéo en 87 avec Bad.
Oui, I'm very, very bad.
Voilà,
who's bad?
18 minutes, il a tourné. Et en 88, on retrouve donc Somewhere Down the Crazy River de Robbie Roberts.
Bien, c'est Martin. Hein.
Oui.
Donc voilà. Eh ben, ma foi.
Donc... Encore ta foi?
Oui, hallelujah, brother. Donc, effectivement, Martin Scorsese, un grand réalisateur qui montre et démontre à plusieurs reprises, à maintes reprises, dirais-je même, son amour pour sa grande pomme, pour New York et surtout son passé, puisqu'il parle beaucoup quand même de Little Italia et de sa passion pour la famille. Tu connais?
Oui.
Ok. Eh ben, maintenant, puisqu'on va... On va parler
du pastel,
mais
il est
en
congé.
Mais non, mais le pastel, il est en congé. Oui, il est en train de. Non, bah. Donc, on va en parler de quelques films qui vont sortir. Voilà. Donc, je cède le pas à mon cher collègue.
Allez, Mimé. You're next. You're next.
Ah oui, tu commences avec du lourd, toi.
Ouais, Dadan Wingard. Donc, il sort le 4 septembre. Interdit aux moins de 16 ans.
Ah oui, donc, tu m'étonnes, oui.
Tu ne prends pas les lois.
Non.
Donc,
pas mentalement, non.
Saint-Jean-de-Festem, mais en plus gore. Non, merci de ton
avis. Ouais. On peut, oui, non, mais ça, c'est, oui, c'est sûr que c'est plus gore. Hein. C'est Al Gore.
Une réunion donc, de famille, celle des Davidson, tourne brusquement court. Lorsque leur demeure est prise d'assaut par un groupe de tueurs psychopathes en déguisement d'animaux. Donc, one à one,
ouais.
Yeah. Les membres de la famille périssent dans des pièges sophistiqués. C'est un genre de Saw aussi. Un peu
oui, mais d'ailleurs, je crois que c'est par le réalisateur de Saw et de...
Pelle.
Ah oui, Saw et Pelle, ok, ouais, d'accord. Non, je ne me rappelle plus quel autre film un peu dans le même genre.
C'est cool. Mais ni le tueur ni leur victime n'avaient envisagé Karen hier. Sous ses airs d'innocente petite amie, avait l'instinct viscéral de rendre des coups. Donc le réalisateur manie habilement l'humour sans neutraliser l'intensité des situations qui s'enchaînent à un rythme frénétique et euphorisant. Donc je pense qu'on se retrouve un peu des fois dans l'abattage gore, hein, comme le disait
oui,
Gwen.
Oui, hélas.
C'est un film assez classique. Mais voilà. Bon, je pense que ça va savoir.
Ça va saigner surtout. Ça va couper. Donc, et moi, j'ai parlé d'un film qui va sortir le 23 octobre, donc pas tout de suite. C'est Gravity d'Alfonso Cuarón, celui qui avait réalisé Le Fils de l'Homme, hein, donc avec Sandra Bullock et George Clooney. Donc, l'histoire de Ryan Stone, brillante experte en engineering médical, et son collègue Matt Koslowski, qui effectue donc un vol spatial. Donc, pour elle, c'est une première, mais pour lui, ça ressemble plutôt à son glas. C'est le dernier vol. Hélas, arrive un incident, la navette spatiale explose et le couple se retrouve seul dans l'univers sans plus aucun contact avec la Terre et leur réserve d'air s'épuise. Il paraît que c'est un super défi au niveau des images qui ressemble un petit peu à Avatar au niveau des images. Voilà, et c'est vraiment fantastique. Voilà, et un peu de suspense. Voilà.
Super cool. Moi, je parlais d'un film maintenant qui sort en salle le 6 novembre. Donc, c'est Inside Llewyn Davis,
ah oui.
Dethan et Joel Quinn.
Ah oui, des frères Cohen.
Quinn.
Ah oui.
Avec Oscar, donc Isaac, Justin Timberlake et Carey Mulligan. Mm-hmm. Donc, s'il a été grand prix au dernier festival d'Escanes, donc le film des frères Cohen Bros, décline à nouveau leur mélomanie et leur affection pour les losers biblique et tragicomique. Mm-hmm. Cette tranche de vie d'un chanteur folk doué mais dans la dèche à New York en 1961 arrive précédée de l'aura flatteuse d'une fausse œuvre mineure dans la filmo des frangins à la Serious Man.
Oui, oui. Voilà.
Avant même sa sortie, la presse US hein, l'adoube ouais. comme favori aux Oscars pour la bande son comme pour le bien nommé Oscar Isaac dans le rôle titre.
Voilà. Et moi, je fais référence, puisqu'on a, tu as parlé de Malavita, donc de notre cher Luc Besson. Moi, je parlais de Au bonheur des ogres de Nicolas Barry, puisque Malavita, c'était Tonino Benacquista. Et bien, le Au bonheur des ogres, c'est notre cher Daniel Pénac, un cher auteur hein, qui se balade dans le Vercors et dans le Diwa, pour ceux qui auraient eu le bonheur de le croiser. Donc, avec Raphaël Personnaz, qu'on avait vu dans Marius
Trésor
et Fanny,
ah.
Non. Et notre chère Bérénice Bejo, ainsi que Emir Kusturica. Donc l'histoire de Benjamin Malocène, qui est bouc émissaire, puisqu'en fait son boulot c'est de se présenter, et quand des gens portent plainte dans une entreprise, et de se faire tancer jusqu'à ce que le client ma foi, retire sa plainte. Et lui, en fait, sa mère est une dame qui rencontre beaucoup de messieurs, qui a des enfants, qui arrive, qui dépose les enfants et qui repart. Donc, notre cher Benjamin Malocène a une famille un peu bordélique, mais emplie de bonheur. Et jusqu'à ce que un jour, ma foi, les choses explosent et que la police commence à prendre Benjamin comme cible. Et aussi, il y a la présence de cette chère reporter, la fameuse Tata Julie, qu'on reconnaît sous les traits de Julie Vercors dans le roman. Moi, je voulais vraiment se voir là parce que j'adore l'œuvre de Daniel Pénac, surtout tous les romans de Benjamin Malocène, du moins comme personnage. Mais alors, moi, j'espère qu'une seule chose, c'est que ce film ne va pas être une bouse. Voilà.
Pourquoi t'en parles alors?
Mais parce que moi, j'espère enfin voir ce que ça donne au cinéma. Parce que voilà, c'est vraiment des romans que j'adore.
D'accord. Donc, Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, méconnaissable, Matt Damon aussi, m'écoute, et Dan Aykroyd.
Oui.
Donc, le kitsch, c'est chic.
Ça, c'est sûr, oui.
Donc, avec effet secondaire, donc Steven Soderbergh revient avec un nouveau dernier film dévoilé à Cannes en mai. Hein. Donc à la fois sec et flamboyant, Ma vie avec Liberace raconte l'histoire d'amour tumultueuse entre Liberace, donc kitschisme pianiste de variété des années disco interprété par un Michael Douglas on fire et un jeune ingénu auquel Matt Damon prête la douceur de ses traits.
Et cette coupe, ma foi, qui n'est pas sans rappeler les Playmobil.
Oui aussi, une belle perruque. Hein. Donc il est en salle le 18 septembre.
Ouais, et moi, pour finir, puisque tu te l'es lancé un petit peu dans une séquence un peu plus arté, moi je vais continuer avec
arté,
Machete Kill de Roberto Rodriguez. Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Mel Gibson, puisque c'est lui le méchant,
ouais.
Lady Gaga, Antonio Banderas qui fait un méchant, Charlie Sheen qui fait El Presidente des États-Unis, Damien Béchir, Cuba Gooding Jr., Amber Heard et Vanessa Hudgens. Donc le président envoie Machete dans une mission suicide contre un marchand d'armes mexicain qui veut envoyer une bombe destructrice sur la Maison Blanche. Voilà le retour de notre cher Machete, dont la fameuse bande-annonce était dans le fameux film de Quentin Tarantino et de Roberto Rodriguez. Moi, c'est surtout la présence de Mel Gibson, puisqu'il va être le méchant, et puisque je pense qu'il sera aussi le prochain méchant dans les Expendables. Hein. Alors, c'est sûr que là, il n'y a pas de la méningite. Hein. Ça va être un film, ma foi, de bourré d'action, avec des soutiens-gorge à mitrailleuse, des coupes-coupes, et voilà. Et une belle présence de pléiade d'acteurs. Donc, voilà. Super. Voilà. Donc, un petit moment de détente offert par Monsieur Rodriguez.
C'est superbe. Qu'est-ce que c'est le thème de la semaine?
Alors, le thème de la semaine... Voilà, c'est la déchirure.
Très bon film, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs. Tout à fait. Eh bien, ma foi, on va se lancer...
Ta foi, on vous attend, monsieur.
Oui, donc, la semaine prochaine...
Je vous rappelle que cette émission, vous êtes toujours sur 107.5 FM. Oui. RDWR.fr. Oui, c'était splendide.
Oui, c'est ça. 107.5. Donc, eh bien, ma foi, la semaine prochaine, nous allons parler, puisque je vais lancer un défi à notre cher...
Que je refuse tout de suite.
D'accord, ok, super.
Un challenge.
Non, en fait, je vais faire un truc un peu plus léger, hein, puisque j'étais décidé.
Gwen fait un régime. Wastewater.
Oui, WW. Eh bien, non, là, c'est une autre lettre qu'on double. C'est Gigi. C'est Gigi. Abrams, voilà, puisqu'on a fait...
Ah, celui qui a fait la science fiction.
Oui, voilà, c'est ça, on va se faire un peu à la science fiction, et surtout que ce cher J.J. Abrams prend de plus en plus de place.
Ah oui, c'est celui qui a fait le dernier Man of Steel.
Voilà, c'est ça, et aussi les Star Trek, et que c'est lui qui va faire...
Il va faire... Oh, merde. Pas ça, ce film, parce que c'est... Donc voilà, Gwen a un trou.
Oui.
Si vous voulez, vous pouvez appeler au 0899.
Oui, enfin bon, c'est le grand réalisateur du moment et c'est surtout un grand passionné de science fiction parce que ça manque un petit peu à cette émission, la science friction. Voilà.
Eh bien, sortez vos godes, mettez les piles et frictionnez-vous. La semaine prochaine, ça va frictionner. Au revoir.
Au revoir.
Snap out of it!
You make me want to be a better man.
I'm funny how? Funny like going to them. You want to have a work all day.
This is Sparta!
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Say hello to my new friend!
I wanted to learn something.
Go ahead. Make my day.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.